Vous écoutez France Culture.
Question d'éthique, une émission hebdomadaire proposée par Monique Canto-Sperber. Le château de Saint-Cloud ou le palais retrouvé, mais pourquoi restituer le passé? Est-ce de la connaissance ou est-ce que une envie de réalité. Le paradoxe ne doit pas être sous-estimé que celui d'un livre d'art, riche en œuvres et en images, tout entier consacré à un palais qui n'existe plus. Telle est la récente publication que les éditions du patrimoine et les éditions Swann proposent sous le titre de Saint-Cloud, le palais retrouvé. Ce livre est consacré à un palais détruit il y a 150 ans et en donne une connaissance et une représentation extrêmement concrète, extrêmement riche, qui laisse imaginer au lecteur eh bien, qu'il se promène dans ce château, ce qu'il n'a jamais pu faire, en tout cas pour les lecteurs, les éventuels lecteurs qui seraient de nos auditeurs. Devant cette capacité qu'a l'histoire, et singulièrement l'histoire de l'art, de faire ressurgir une réalité ensevelie dans le passé, se posent de nombreuses questions. Des questions d'histoire, des questions de recherche, bien sûr, mais aussi des questions qui ont trait à l'orientation générale de cette émission. Pourquoi cela? Pourquoi une telle démarche? Qu'est-ce qui est visé? Une meilleure connaissance? Ou bien quelque chose qui est de l'ordre d'une réalité restituée? Et en quoi consiste-t-elle? Merci Bernard Chevalier d'avoir accepté cette invitation. Vous êtes le seul à qui je puisse poser toutes ces questions, puisque vous êtes véritablement le maître d'œuvre de cet ouvrage, oui. Qu'il avait conçu, qu'il avait présenté. Mais il faut quand même rendre hommage à tous ceux qui y ont collaboré. D'abord, les éditeurs, Aurélia Rostin, qui a parlé des jardins, puisque qui connaît le château de Saint-Cloud aujourd'hui, ou qui a entendu parler du château de Saint-Cloud, connaît surtout les jardins. Jean-Denis Serena et Marc Walter aussi, qui a organisé ce livre et qui en a fait la maquette. On a affaire à un véritable objet d'art. D'où est venue l'idée de cette restitution, de ce qu'on appelle provisoirement entre nous, de ce que nous appelons une restitution?
Depuis très longtemps, j'envisageais, je connaissais l'existence dans la collection de Jean-Denis Serena d'un album de photographies montrant les différentes salles des appartements impériaux à Saint-Cloud. Et j'ai toujours un peu la nostalgie du passé, et je m'amuse des fois à m'intituler moi-même Castellomaniaque. Donc cette volonté d'essayer de retrouver le passé m'a depuis très longtemps intéressé, et je me suis dit qu'à partir de cet album, sachant que l'impératrice Eugénie avait fait rentrer à Paris la plupart des meubles importants de Saint-Cloud, on pourrait essayer de les retrouver dans les différentes administrations, dans les musées, dans les palais, et essayer de faire une visite virtuelle de Saint-Cloud.
Alors, l'album de photographie, en effet, vous parlez de l'album de Richebourg. Pouvez-vous nous dire quelques mots sur cet album qui est extraordinaire? C'est une sorte de reportage photographique extrêmement complet, extrêmement détaillé, réalisé au milieu du 19e siècle. Dans quelles circonstances?
Alors, Richebourg était quand même photographe de la Maison de l'Empereur. Il a fait beaucoup de campagnes officielles de photographie. On connaît un autre exemplaire de cet album non signé. Donc, pour moi, c'est très important de savoir quel est l'auteur de ces photographies. Et il a été autorisé à ne prendre en photo que les grands appartements du premier étage. Si bien que nous sommes un peu frustrés quand même. Nous n'avons pas les appartements du prince impérial. Nous n'avons pas le petit appartement de l'empereur au rez-de-chaussée. Mais quand même, on a quasiment toutes les pièces de l'étage noble. Et tout ça a été réuni sous forme d'album. Il y en a très peu, on en connaît fort peu.
Et beaucoup de photographies de l'extérieur également. Enfin, il y a des sources photographiques, même en dehors de cet album, qui photographient le château tel qu'il était.
Tout à fait, parce qu'on en connaît également dans d'autres administrations. Il n'y a pas que les photographies de Richebourg qui existent. Les fonds de la Bibliothèque nationale de France sont également très importants et très variés, ont permis de compléter certaines vues qui n'existaient pas dans l'album Richebourg, si bien que, hormis peut-être deux salles sur la bonne trentaine qui sont représentées, nous avons à peu près des vues de toutes les pièces du château de Saint-Cloud, des fois sous différents angles.
Alors, j'insiste bien, nous ne parlons pas d'un château qui existe, mais d'un château qui n'existe plus. J'insiste parce que nous en parlons de telle façon que les auditeurs pourraient être troublés. Donc ce château a existé, ça a été un des plus beaux châteaux de la royauté, et ensuite un des châteaux impériaux, une des demeures impériales. Il a été détruit en partie après la guerre de 70 et totalement une vingtaine d'années après. Quelle est l'histoire de ce château? Pourquoi est-il si important? Pourquoi pour tous ceux qui habitent à Paris ou ont eu l'occasion, ou habitent dans les alentours de Paris, ont eu l'occasion de se promener dans le magnifique parc de Saint-Cloud, pourquoi le château est en fait l'ordonnateur manquant? C'est celui qui structure tout cet extraordinaire parc, mais qui n'est plus là. S'est-il passé? Quand est-il né? Et que lui est-il arrivé?
Ce château est né en fait d'une famille italienne arrivée avec Catherine de Médicis qui s'appelait les Gondi, mais il n'a pas eu une histoire assez extraordinaire jusqu'au moment où Louis XIV l'a acheté pour son frère, monsieur duc d'Orléans. Donc ça a été vraiment le château des Orléans pendant plus d'un siècle. Les Orléans l'ont habité jusqu'en 1785, au moment où le duc de cette époque-là, ruiné, plus ou moins ruiné, et puis n'ayant pas vraiment le goût de Saint-Cloud, ayant d'autres propriétés en Île-de-France, a vendu son château à la reine Marie-Antoinette.
Qu'avait-il d'extraordinaire ce château des d'Orléans, le château de monsieur, donc du frère du roi, du frère de Louis XIV à l'origine? Qu'avait-il de si extraordinaire? Qu'est-ce qui le distinguait de
monsieur a voulu faire de son château un peu, non pas le rival de Versailles, mais quand même un petit peu, parce qu'il y avait une espèce de compétition entre les deux frères. Lebrun était le premier peintre du roi, faisait la grande galerie de Versailles, mais avant que Lebrun n'ait peint la galerie de Versailles, monsieur avait demandé au rival de Lebrun, Mignard, de lui peindre une grande galerie qu'on appelait la galerie d'Apollon. Et je pense que le modèle de la galerie d'Apollon de Saint-Cloud était celle du Louvre. C'était la galerie du Palais du Roi. Évidemment, celle de monsieur est légèrement plus étroite, légèrement moins longue, parce que nous sommes quand même chez le frère du roi et non pas chez Sa Majesté elle-même. Et cette galerie avait frappé tous les esprits. Le roi lui-même l'avait visitée et avait espéré que sa future galerie serait au moins du même niveau que celle de son frère.
Et les jardins ?
Les jardins, évidemment, le sempiternel, le nôtre, que l'on voit partout. Et le nôtre, là, avait un terrain assez ingrat parce que le château était construit sur une colline avec différents points de vue. Et là, le nôtre a magistralement maîtrisé tous les paysages, si bien que ce parc, qui est encore à peu près intact, tel que le nôtre l'a construit, parle encore aux visiteurs actuels. Mais il manque le point central sur lequel toutes ces perspectives aboutissaient.
Vous avez évoqué l'achat de ce château par Marie-Antoinette, qui s'est entichée en quelque sorte, qui a été prise un engouement soudain pour cette demeure et qui a voulu l'acquérir.
En fait, les grands travaux prévus pour Versailles, on devait agrandir Versailles, ont décidé la reine à avoir, j'allais dire, une position de repli, pas très loin, et elle a acheté Saint-Cloud pour être un petit peu à la campagne, avoir une vie moins contraignante que la vie de cour de Versailles. D'ailleurs, ce qui a beaucoup choqué les contemporains, c'est que tous les textes écrits à l'entrée du parc étaient écrits de par la reine, ce qui ne s'était jamais vu auparavant pour une résidence royale. Elle y a fort peu vécu parce que les travaux ont dû être très importants. Elle a fait détruire les appartements des Orléans, en conservant seulement les parties importantes peintes par Mignard, et a demandé à son architecte Richard Mick de lui construire une aile immense qui ressemble un peu à ce qui serait un grand hôtel à la fin du XIXe siècle, avec plusieurs étages, pour avoir beaucoup d'appartements pour les gens de son entourage. Et elle s'était réservée un appartement très agréable, avec les appartements de ses enfants juste à côté. Donc c'était vraiment une résidence de famille où elle n'a pu habiter qu'une fois ou deux avant la Révolution.
Et les meubles, les ébénisteries sont tout à fait remarquables. La qualité du mobilier est exceptionnelle.
Elle avait commandé ce qu'il y avait de mieux pour Saint-Cloud. On est dans les années 85-87. Donc on a Riesner, Jacob, Auré, Séné, tous les grands noms de la fin du 18e. Mais ce mobilier, elle ne l'a vu qu'une fois ou deux. Et il a été malheureusement dispersé aux enchères par les révolutionnaires.
Et la famille s'est installée en 1788 et en 1789, l'histoire a basculé.
Voilà, ils sont revenus une fois en 90, mais en 91, ils n'ont pas pu y aller. La foule les a empêchés de partir.
Vous vous rappelez que c'est là qu'a eu lieu cette fameuse rencontre avec Mirabeau.
Oui.
Bon, alors que se passe-t-il après ? On entre dans la période révolutionnaire.
Alors la Saint-Cloud est un petit peu abandonnée, on n'en parle pas trop. Et il revient sur le devant de l'écran grâce à quelqu'un qui s'appelle Napoléon Bonaparte. Vous savez qu'au moment où Bonaparte rentre d'Égypte, il prépare un coup d'État pour renverser le directoire. Et plutôt que d'être à Paris, où il y a toujours la foule qui est là, qui fait des mouvements, il décide que ça se passera à Saint-Cloud, dans l'Orangerie, où l'on convoque les 500. Et c'est là où le coup d'État a lieu, en novembre 1799. Et ce coup d'État fait rentrer à nouveau Saint-Cloud dans l'histoire. Et pendant un certain nombre d'années, on n'en parle plus, jusqu'au moment où Bonaparte, devenu consul, n'avait comme résidence officielle que le palais des Tuileries. Sa résidence de campagne était sa propre résidence de Malmaison, domaine privé. Donc, à l'automne 1802, il s'installe à Saint-Cloud comme premier consul, et c'est là que commence la nouvelle vie de Saint-Cloud pendant le 19e siècle.
Qui sera très marquée par les dynasties impériales.
Tout le monde habitait Saint-Cloud à partir de Napoléon.
Même Charles X, d'ailleurs.
Charles
aussi.
X, Louis XVIII qui allait très peu, mais Charles X l'aimait beaucoup. Louis-Philippe, qui au début avait des difficultés à retrouver ce château qu'il avait connu lorsqu'il était jeune, mais qui finalement s'y est bien adapté. Et puis Napoléon III et Eugénie qui ont donné la marque à ce palais tel que les photographies nous le restituent.
Alors là, nous nous approchons de la fin de l'existence, en tout cas de l'existence glorieuse de ce palais. La vie de Napoléon III à Saint-Cloud, comment la caractériser ? C'était une vie de famille, d'une certaine façon.
Oui, Saint-Cloud a toujours été considéré par nos souverains du XIXe siècle comme une résidence de campagne où l'étiquette était plus large qu'aux Tuileries. Et Napoléon III, il venait souvent. Il allait des fois aux Tuileries en une demi-heure depuis jusqu'à Saint-Cloud. Et il y avait une salle du conseil. On réunissait les ministres. Il y recevait beaucoup de délégations, de souverains étrangers. Il y a eu des choses importantes qui sont passées à Saint-Cloud, surtout que c'est là où il a voulu qu'on lui annonce le rétablissement de l'Empire, là même où son oncle avait été proclamé empereur en mai 1804. Il y a dans la volonté de Napoléon III le désir de se rattacher toujours à l'ombre de l'oncle.
Et les dernières décennies, les deux dernières décennies d'existence du château de Saint-Cloud sont très marquées par la personnalité de Napoléon III. Je résiste pas à la tentation de citer le passage des châtiments de Victor Hugo, ou à côté de cette vie, au fond, assez bonhomme et qui pourrait paraître sympathique que vous décrivez, l'exilé Victor Hugo, à Saint-Cloud, effeuillons jasmins et marguerites, quand s'ébat sous les fleurs l'essaim des favorites, bras nus et gorge au vent, dans le festin qu'égaye un lustre à mille branches, chacune, en souriant, dans ses belles dents blanches, mange un enfant vivant. On n'en était pas tout à fait là.
Victor Hugo est allé quand même très loin. C'est pour ça que j'ai souhaité préciser cet article, parce que je trouve que franchement, l'attitude d'Hugo, c'est lui qui est l'auteur en fait de cette espèce presque de haine que les Français ont envers Napoléon III. Pour beaucoup de Français, Napoléon III, c'est Sedan. En fait, le Second Empire a été une période très, très fastueuse et très riche de l'histoire de France. Il a créé la France moderne.
Mais pour en revenir donc à la fin du château de Saint-Cloud, en tout cas son passage de demeure somptueuse à état de ruine, c'est un obus prussien donc, qui a apporté un coup fatal au château de Saint-Cloud et a été à l'origine d'un incendie.
Ça n'a pas vraiment commencé comme ça. En réalité, les Prussiens étaient installés à Saint-Cloud et les Français étaient au Mont-Valérien. Et c'est depuis le Mont-Valérien où l'on a tiré quelques obus sur Saint-Cloud. C'était évidemment les Républicains qui étaient au Mont-Valérien. Ils avaient déjà tiré sur Malmaison, tiré sur Saint-Cloud. Les premiers obus n'ont pas fait de dégâts. Et un des obus est tombé exactement sur le lit dans la chambre de l'empereur, qui a commencé à mettre le feu. Mais un feu qu'on aurait pu parfaitement maîtriser. Le seul problème, c'est qu'il n'y avait aucun Français sur place. Les Prussiens ayant chassé les Français à ce moment-là, ils étaient maîtres des lieux. Et d'après ce qu'on a retrouvé après le départ des Prussiens, c'est-à-dire des bidons d'essence, des tuyaux de pompes d'incendie crevés, on pense que les Prussiens n'ont rien fait pour éteindre le feu. peut-être même attisé, ça on n'en sait rien.
Parce que c'était le symbole du pouvoir impérial ?
Parce que c'était aussi la revanche de Iéna. Il ne faut pas oublier que c'est à Saint-Cloud que Napoléon Ier a été proclamé empereur, que Napoléon III l'a été également. Et je pense que chez les Prussiens, il y avait un désir de revanche très fort. D'ailleurs, le roi Guillaume avait dit au moment de l'installation que chacun de ses officiers pouvait prendre un souvenir, ce qui, évidemment, ils ont fait. C'est pour ça qu'on retrouve encore sur le marché de l'art beaucoup d'objets venant de Saint-Cloud qui ont été pris par les Prussiens au moment du pillage. Donc l'incendie s'est propagé. On a quand même eu le temps d'enlever 5000 ouvrages de la bibliothèque, donc ce qui veut dire que c'était quand même tout à fait organisé. Les pendules ont été enlevées aussi, beaucoup de meubles, des vases, porcelaine de Sèvres. On a retrouvé tout ça en Allemagne.
Que se passe-t-il ensuite ? Donc entre l'incendie dure plusieurs jours, Saint-Cloud est réduit à l'état de ruine. D'ailleurs, le livre s'ouvre sur une dizaine de photographies de Saint-Cloud réduit à cette espèce de squelette de ruine poignant, en quelque sorte, comme une sorte d'imploration devant, adressée à ceux qui ont laissé faire ça. Et ensuite, que se passe-t-il ?
Alors, le château brûle pendant...
Il y a un débat sur l'usage de...
Oui, le château brûle pendant deux jours. Et évidemment, pour les Républicains, c'est aussi le symbole des Bonaparte. Et c'est la raison pour laquelle on a laissé le château sans aucun travail pour essayer de le sauver, même de le couvrir. On a fait la même chose aux Tuileries. On a laissé les deux palais pendant 20 ans à l'air libre. Ce qui fait qu'au bout de 20 ans, on n'avait plus qu'à détruire les ruines qui symbolisaient le pouvoir de la monarchie impériale.
Et quelle a été l'importance des pillages de cette destitution, en effet, des symboles du pouvoir ?
On a pas mal pillé parce que... En dépit de tout ce qui a été rentré à Paris avant l'arrivée des Prussiens, il restait énormément de mobilier, peut-être un peu secondaire, du mobilier souvent commandé 15 ou 20 ans auparavant, que l'on considérait comme contemporain, donc sans grand intérêt par rapport au mobilier du XVIIIe siècle. Tout le mobilier des appartements de courtisans était resté en place, et tout ça a été pris par les Prussiens.
Comment la décision de détruire définitivement Saint-Cloud a-t-elle été prise dans les mêmes circonstances que celle de détruire les Tuileries ?
Absolument, à peu près à la même époque. Il y a eu une adjudication à un entrepreneur qui a démoli tout. Et il faut dire que dès la ruine de Saint-Cloud, en 71, déjà, les touristes venaient visiter les ruines, prenaient des morceaux de colonnes, prenaient des morceaux de balustrade. Et au moment de l'adjudication des ruines, certaines personnes ont pu sauver quelques éléments, les frontons, des grilles.
Qu'on retrouve dans plusieurs demeures patriciennes un peu partout.
Oui. Même, d'ailleurs, ce qui est amusant, c'est que la grande grille du corps latéral a été achetée par Pozzo di Borgo pour son château de la Punta.
Vous avez, au début de cette émission, indiqué que l'impératrice Eugénie avait en partie vidé Saint-Cloud avant l'arrivée des Prussiens.
Oui, parce que très tôt, l'impératrice a été informée par l'empereur que nous allions perdre la guerre. Napoléon III s'est rendu compte, arrivé au camp de Châlons, que l'armée n'était pas prête du tout. Donc l'impératrice a pris ses précautions. Elle était quand même nommée régente par Napoléon III. D'ailleurs, un des détails, c'est qu'elle a fait rentrer dans Paris des centaines de vaches, de moutons, imaginant qu'on allait avoir un siège, parce que Paris était entouré par une enceinte construite par Thiers. Donc elle s'est dit, je vais faire rentrer à l'intérieur de Paris tout ce qui est précieux dans les châteaux des environs à l'ouest. Donc elle a fait rentrer le mobilier important du XVIIIe siècle et même du début du XIXe de Saint-Cloud, mais également de Meudon et de Malmaison, pour le mettre à l'abri dans les réserves du garde-meuble. Donc c'est ce qui nous a sauvé énormément de choses. Si bien que quand les Prussiens sont arrivés, ils ont été un peu déçus de voir des murs nus. Les tapisseries avaient été enlevées, les tableaux aussi. Il n'y avait plus grand-chose, en fait, à part du mobilier secondaire.
Alors, pour procéder à cette visite, eh bien, c'est très simple. On se fie à un plan, qui est le plan du premier étage, donc de l'étage noble. Toutes les pièces y sont décrites. Et chapitre après chapitre, on visite chacune de ces pièces. Avec les photographies, le plus souvent issues de l'album Richebourg, enfin presque exclusivement d'ailleurs, et les objets qui ont été, que vous avez retrouvés. Soit au mobilier national, soit différents aux endroits où ils ont été déposés.
Oui, ça a été une quête tout à fait passionnante. On en a retrouvé absolument partout, parce que, en fait, tout est rentré au garde-meuble. Mais depuis les années 1870, tout ça a été dispersé dans différentes propriétés, appartenant pour la plupart à l'État, soit dans des musées, au Louvre, à Versailles, à Malmaison. Il y en avait absolument partout. Et ça a été une quête absolument passionnante, ce qui correspondait exactement à ce que je voulais faire. Donc nous avons en vis-à-vis les photographies anciennes et les merveilleuses photographies de Marc Walter qui souvent sont en vis-à-vis et qui font rêver. Je dois dire que c'est un des atouts importants de cet ouvrage, d'avoir pu prendre en situation souvent des objets que on ne pouvait pas imaginer qu'ils existaient encore.
D'admirables fauteuils, des vases extraordinaires, des horloges, des pendules, des sculptures, enfin, des tapisseries. C'est vraiment tout à fait exceptionnel. Et ça permet d'imaginer ce que pouvait être la splendeur de ce château. Alors évidemment, les photographies sont en noir et blanc. Elles datent du 19e siècle. Et à côté, nous avons une présentation de la plupart des, enfin de beaucoup des objets qui figurent sur ces photographies, dont toute la vivacité de leur couleur, de leur matérialité. C'est saisissant, ce contraste.
Mais ça a été merveilleux, parce qu'effectivement, de retrouver tous ces objets et de pouvoir les remettre en place. Mon propos était effectivement de faire une visite guidée, comme si le château existait encore, salle par salle. Avec tout ce qu'on a pu retrouver, mais il y en a à New York, on a retrouvé des objets en Angleterre, voire en Jordanie. L'extraordinaire piano offert par François Joseph à l'impératrice, qu'on a retrouvé, qui a été vendu à une sœur du roi Hussein. Donc tout ça a été dispersé d'une manière incroyable, et c'est vrai que l'enquête a été faite du mieux possible, mais on en retrouvera encore, c'est évident.
Donc c'est une visite qui n'est pas encore complète. J'espère que les éditions du patrimoine songent déjà, devant le succès attendu de ce livre, à l'éditer en collection peut-être moins coûteuse, afin que tous les amateurs du parc de Saint-Cloud et qui seraient prêts à découvrir le château puissent le faire plus facilement. Alors là, nous avons parlé de cette visite guidée et on peut imaginer aussi que un accès virtuel, le monde virtuel, le monde numérique soit idéal pour pouvoir, en quelque sorte, prolonger l'expérience. Je ne sais pas si c'est une perspective qui est dès à présent envisagée.
Ça pourrait être fait, effectivement.
Mais à côté de cela, vous n'ignorez pas que plusieurs personnes se sont associées et ont même rédigé des pétitions pour demander la reconstruction véritable, réelle, du château de Saint-Cloud.
Oui, on peut toujours rêver.
Que pensez-vous de cette démarche ?
On peut toujours rêver sur des reconstructions. Moi, je pense que ces reconstructions sont un petit peu utopiques, parce que regardez celle des Tuileries qui avait été prévue. Ce sont souvent l'œuvre d'une personne que je respecte beaucoup et que j'admire pour leur engagement. Mais reconstruire nos châteaux en France, ça me paraît techniquement très difficile, parce que ces châteaux sont en pierre de taille, font appel à beaucoup de sculptures. Donc il faut vraiment des sculpteurs comme nous n'en avons peut-être plus pour refaire des frontons, pour refaire des ferronneries. Je prends toujours l'exemple des palais russes ou des châteaux allemands qui pour la plupart ne sont pas en pierre de taille, sont en briques recouvertes de plâtre. Donc c'est quand même beaucoup plus facile à refaire une aile d'un château quand on voit tous ces palais à Charlottenburg, que ce soit les palais russes qui ont été détruits en 1944, qui ont été parfaitement reconstruits, qui maintenant ont de la patine. On envisage de reconstruire le château royal de Berlin.
Ah, c'est tout à fait décidé. Les travaux, d'ailleurs, commencent maintenant.
Mais je suis admiratif. Je prends l'exemple du château royal de Varsovie, qui a été complètement rasé, qui était devenu un parking pour autocars. Et maintenant, on se promène dans le château. Alors certes, on s'y croit. Ce qui est un peu déficient, ce sont les peintures des plafonds qu'on a voulu refaire. Mais je trouve qu'au niveau de l'histoire de la nation, de l'identité nationale, c'est extrêmement important pour ces peuples qui ont beaucoup souffert de retrouver leur palais d'origine.
D'abord, on a très souvent reconstruit, après la Deuxième Guerre mondiale en particulier, les monuments des nations les plus meurtries. Et même après la Première Guerre mondiale, la cathédrale d'Ypres, oui. Cette pauvre ville d'Ypres dont il ne restait rien, a été en partie reconstruite après la Première Guerre mondiale. Beaucoup de villes de Pologne, en particulier Varsovie, ont été reconstruites aussi. Donc la chose semble aller de soi lorsqu'une blessure doit être réparée. Pour les Allemands, évidemment, beaucoup s'interrogent sur l'opportunité de reconstituer ou de reconstruire ce château, même s'il ne sera reconstruit que pour trois quarts en référence au passé, puisque la quatrième façade, celle qui donnera sur la Spree, sera une façade ultramoderne. Oui. Et que l'aménagement sera un aménagement de centre culturel ultra contemporain. Donc la chose est peu praticable en raison de la qualité du type de construction qui caractérise ces châteaux. Mais par ailleurs, beaucoup pensent que c'est aussi donner une mauvaise indication sur le travail de restitution du souvenir, de conservation des traces et même de devoir de mémoire que nous devons avoir à l'égard de notre patrimoine disparu.
Je pense qu'il est difficile de revenir en arrière. L'histoire en a fait un endroit sans rien. C'est vrai que ce château manque, le volume manque quand on est dans le jardin, mais peut-on vraiment revenir en arrière ?
Et le palais des Tuileries manque aussi.
Bien sûr.
Dans l'équilibre entre le Louvre et les Tuileries, puisque les deux devaient...
Tout ça, c'était la volonté politique, parce qu'on a bien reconstruit l'hôtel de ville, on a restauré le palais de justice qui avait brûlé aussi, le palais royal, l'hôtel de Salm a été reconstruit aussi. Donc vraiment, il y avait une volonté de raser complètement le souvenir des Bonaparte.
Ça vous paraît être l'intention première ?
Non, mais absolument. Ça, j'en suis intimement persuadé.
Comme d'effacer toute trace, puisque là, la chose était possible, ce n'était pas possible à Versailles, mais aux Tuileries, c'était possible, toute trace de la royauté de l'Ancien Régime.
Oui, tout à fait. Ça, c'est la République triomphante qui avait besoin de se consolider.
Dans la pierre cassée et ensuite dispersée, dans la destruction. Alors, j'ai sous les yeux un communiqué qui a été proposé à la suite de l'Assemblée générale du Comité français d'histoire de l'art en janvier 2009 et qui se prononce contre la reconstruction du Palais des Tuileries. Si vous me permettez, je vais vous citer un extrait parce que les arguments sont tout de même intéressants. Le comité souligne ensuite, c'est le deuxième argument, le premier parle des questions de faisabilité, qu'il est absurde de vouloir greffer une copie obligatoirement approximative sur un ensemble palatial, celui du Louvre, auquel l'histoire a accordé le très rare privilège d'être aujourd'hui encore composé d'éléments d'époques différentes, mais tous originaux et authentiques. On a cessé de reconstruire le Louvre, mais tout est original et authentique. Oui. C'est un beau paradoxe. Le comité s'étonne aussi qu'un tel projet puisse faire abstraction du passage du temps et de ses conséquences. Voilà une belle formule. Plus de 125 ans se sont écoulés depuis la décision d'enlèvement des ruines du château prise par le gouvernement de la Troisième République. L'immense espace ouvert créé par cette décision est désormais inscrit dans le paysage contemporain. Il en a influencé de façon déterminante l'urbanisme. Tout cela pourrait être dit à propos du château de Saint-Cloud aussi.
Absolument, même si actuellement le Louvre étend ses longs bras vers l'infini sans rien qui les réunisse comme auparavant, avec ce désaxement de l'axe du carrousel. Mais c'est l'histoire, on ne peut rien y faire, on ne revient pas en arrière.
Donc on ne peut pas faire abstraction du passage du temps et de ses conséquences.
Je trouve que c'est une très belle formule. Et qui est tout à fait exact.
Mais pourtant, au niveau de la connaissance, en tout cas pas de la réalité, c'est ce que vous nous offrez dans ce livre.
Oui, mais moi c'est virtuel.
C'est virtuel et puis ça concerne l'esprit, ça concerne l'incroyable domaine sans cesse extensible des possibles que la connaissance et la recherche permettent. Merci Bernard Chevalier pour cet entretien. Merci à François Conat qui a réalisé cette émission. Merci à Philippe Bredin. Merci à Marie Dalquier. N'oubliez pas Marie Richeux pour Pas la peine de crier, juste à présent. Et d'ici la semaine prochaine, très bonne semaine à tous.